Barbara, et un certain nombre de gens dans le public, dans la flexion la plus profonde, voire même la panique la plus totale, puisque nous allons parler des rapports entre les écrivains ou les futurs écrivains, les would-be écrivains, et les éditeurs, dont je me targue de faire partie. Donc, je présente très rapidement les candidats et les candidates à ma gauche et à ma droite. J'ai ici deux magnifiques impétrants qui ont été deux auteurs qui nous ont proposé des textes et qui ont souffert par toutes les étapes de, je dirais, du retravaillage en notre compagnie. Donc, notre ami Thomas... Attends, tu es Thomas Géa, là, à ce moment-là. Thomas Géa, sans problème. Anne Fakouri. Et... Draco Jeanne de Batz, qui a été ma co-éditrice sur ce coup-là, et Thomas John, qui est le représentant de Cocyclix, qui est une association d'écrivains en herbe et en devenir, dont on aura l'occasion de parler. Alors Draco, je vais te laisser la parole tout de suite. Tu vas nous raconter, on a pris comme exemple une anthologie de Space Opera que nous avons, Draco et moi, co-dirigée.
Jeanne et moi, co-dirigée,
excuse-moi Jeanne. Et elle va vous raconter pourquoi c'est une expérience un peu intéressante.
Alors en fait, cette expérience, elle a commencé à Bagneux, au dernier festival de Bagneux, lorsque nous avons proposé à Marie-Charlotte Delmas, la directrice de ce festival, de dire, nous, c'est Magali Duez et moi-même, la directrice d'édition de Griffes d'encre, de diriger la prochaine anthologie du festival de Bagneux. Et dont le thème nous intéressait beaucoup puisqu'il s'agissait du space opéra. Nous avons donc commencé à penser qu'on pourrait contacter tel écrivain, puis tel autre, que le sujet pouvait inspirer. Et au final, on s'est dit, mais pourquoi, dans la mesure où le festival de Bagneux est voué à récompenser de très jeunes écrivains qui ont publié dans des fanzines, on ne pourrait pas ouvrir l'anthologie à ces mêmes jeunes écrivains, sinon jamais publiés, du moins peu publiés. S'est posée alors la question du recrutement de ces jeunes écrivains. Où est-ce qu'on allait les découvrir, les poussins tout neufs, à peine sortis de l'œuf, vu que nous, on ne les connaissait pas, et que personne ne les connaît, a priori, puisque jeunes. Et c'est alors que l'idée s'est imposée, il fallait faire appel à quelqu'un qui se chargeait de faire éclore ces futures étoiles de la science-fiction. Et c'était le site Cocyclix qui commence désormais à vraiment aider de très nombreux jeunes écrivains en ligne grâce à ces ateliers d'écriture. Et voilà, nous nous sommes donc dirigés vers les grenouilles de la science-fiction pour qu'elles nous aident à trouver nos princes charmants.
Donc, il y a eu une prise de risque dès le début, parce que effectivement, quand on fait appel à Laurent Genefort ou à des gens comme ça, on se dit bon, on sait que le résultat va être professionnel. Là, il y avait véritablement, on se lançait sur un territoire un petit peu inconnu. On confiait à une association dont on reconnaissait la valeur, la capacité de travailler et de faire aboutir un certain nombre de textes, un certain nombre de projets. Ça s'est passé comment ?
Alors, nous avons contacté Sylvie, l'une des têtes pensantes de Cocyclix, et nous lui avons présenté le projet. Elle n'a pas été aussi enthousiaste que nous dès le départ, parce que ce que les grenouilles ne veulent pas faire, c'est faire le travail de l'éditeur. Or, ça tombait bien, on ne voulait pas qu'il fasse ça. On voulait juste qu'il nous facilite le travail et qu'elle défriche le terrain pour nous. Et fasse office de premier filtre entre nous et la sélection. Et à partir de là, ben tu vas nous raconter.
Absolument. Donc, il y a eu un premier filtre où, de notre côté, on a d'abord écarté très peu de personnes, il faut le dire, mais c'était des personnes qui étaient soit pas des bêta-lecteurs chez nous, soit des personnes qui étaient des trolls, il y en a eu quelques-uns, mais très peu. Et parce que naturellement, se sont présentées les personnes qui étaient des bêta-lecteurs chez nous, les personnes qui ont prouvé qu'elles pouvaient s'investir sur des textes, sur le principe de réciprocité, entre autres.
Et excuse-moi, peut-être que tu pourrais nous parler, en fait, de Cocyclix.
Oui,
directement,
Cocyclix,
pour
d'accord.
Commencer. Alors, parce que c'est pas évident
qui,
du tout.
Qui ne connaît pas Cocyclix? Si vous pouvez lever la main,
voilà, tu vois.
Ça fait du monde, c'est parfait. Donc Cocyclix a été fondé en 2006 par Siven. C'est un collectif de bêta-lecteurs fondé sur plusieurs principes. Le bénévolat, la réciprocité et qui a comme principe clé mettre des textes en bêta lecture et en échange on fait des bêta lectures. Donc c'est un principe vraiment réciproque pour être bêta lecture.
J'explique bien. La bêta lecture, ça consiste à se corriger les uns les autres. Donc je lis le texte du copain avec le stylo rouge et je fais tous les commentaires qui me paraissent pertinents. Et en échange, le copain fait la même chose pour moi.
Voilà. Le but étant de donner à la fois un ressenti sur ce qu'on lit, des remarques sur le fond, la cohérence, la forme également. Mais comme on l'a précisé tout à l'heure, sans être directif, sans faire le travail d'un directeur éditorial qui va vraiment orienter et être un peu plus intrusif. Ensuite, à charge aux auteurs de prendre les suggestions qui leur sont faites pour faire des modifications dans leur texte. Voilà comment ça se passe. Et au final, le but est de présenter des textes qui sont à la fois, on va dire, propres, dégagés d'un maximum d'incohérences, et sur lesquels on a pu améliorer certains aspects par des suggestions. Et ça, on a à la fois des méthodes qui sont là pour la bêta-lecture des nouvelles, et une méthode qui est encore plus poussée pour la bêta-lecture des romans, qui passe à travers un cycle complet avec quatre phases. Une phase qui est un travail de fond, donc sur la cohérence et le fond du texte. Ensuite, un travail qui est autonome chez l'auteur. Alors là, on a deux bêta-lecteurs. Un autre travail qui est deux bêta-lecteurs encore sur la partie forme. Et puis un dernier travail, puis l'estampille, qui permet d'avoir auprès de l'éditeur partenaire des facilités pour accéder à l'édition.
Et de nombreux éditeurs, dont un des miens, Griffe d'encre, ont signé des accords de partenariat avec ce site. C'est-à-dire que Griffe d'encre s'est engagé à lire tout manuscrit présenté par le site Cocyclix portant l'estampille Cocyclix. Dans le cadre de Destination Univers, les seuls auteurs non professionnels qui étaient autorisés à se présenter sur cette anthologie devait avoir été estampillé Cocyclix.
Alors c'est là que c'est devenu intéressant, c'est-à-dire qu'on avait d'un côté, on a dit, bon, on va commander en quelque sorte un certain nombre de textes à des auteurs professionnels, bon, on a Anne Fakouri ici qui est un exemple, j'ai cité Laurent Genefort aussi, à ce moment-là, on avait, je dirais, une masse de textes qui étaient commandés.
Et Thomas Géa.
Et ensuite, on a dit, on va faire un travail sur les Cocyclix, on va leur ouvrir la porte, en sachant que c'était une prise de risque, puisque la possibilité était qu'on reçoive peu de textes et que parmi les textes, il n'y en avait pas qui nous plaisent. Tout simplement. C'était le risque. Bon, on avait minimisé le risque de pas qui nous plaisent en passant par Cocyclix parce qu'on sait que justement le travail de retravaillage commun, la manière dont ils ont bossé était en général générateur de meilleure qualité, mais on avait toujours ce risque-là. Et d'abord, à notre surprise, on a reçu plus de 40 textes de Cocyclix. Je ne sais plus quel est le chiffre exact.
On a reçu environ 50 textes, mais en fait, comme tous les textes sont passés directement par moi, en fait, tous les auteurs confirmés comme débutants m'ont envoyé les nouvelles et c'est moi qui les anonymisais et les envoyais au comité de lecture. De facto, pour le comité de lecture, tout le monde était à égalité, aussi bien Anne que Thomas que Laurent. Que Olivier Paquet et les 40 et quelques autres venus de Cocyclix. Personne n'avait dans la tête « Ah, j'ai dans la main une nouvelle d'un auteur confirmé, donc je le regarde avec cet œil-là ». Non, tout le monde était à 0 ou à 100, suivant où vous voulez faire commencer l'échelle. Et le comité de lecture a vraiment choisi, sans a priori, bien forcé.
Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est donc qu'on en a eu plus de 40, ce qui est énorme. Et surtout, on a vu ce qui s'est passé sur le site. C'est-à-dire, on a vu les gens se prendre au jeu, on a vu une espèce d'émulation qui s'est créée, et on a vu les gens s'aider les uns les autres. C'est-à-dire que, pour vous donner un résultat qui est pour moi profondément frappant, on avait donc plus de 40 textes débutants, dont on a retenu au total 4. C'est-à-dire de l'ordre de 1 sur 10. La moyenne, les éditeurs vous le diront, c'est moins de 1 sur 100. Et là, donc, on a eu le sentiment que le travail de commun de Cocyclix, les interactions les uns avec les autres, a entraîné vraiment une espèce de montée de qualité qui fait qu'il y a 4 textes qu'on a pris et il y en a pour moi personnellement 2 ou 3 dont j'espère que je vais arriver à rencontrer les auteurs pour leur dire, bon, c'était pas encore ça, mais il y a quelque chose, il faut qu'on bosse. Bon. Et à partir de là, on a fait bosser les gens.
Moi, je voulais demander à Tom.
Oui.
Comment ça s'est passé pour vous dans l'intimité de votre, des tréfonds du forum de Cocyclic, cette histoire? Parce que ça, nous, on ne l'a pas vu. Mais nous savons que le forum a été en ébullition pendant tout le temps des rédactions de nouvelles. Donc,
C'était assez simple. On a donc établi un sous-forum à l'intérieur du site avec une équipe de modération dédiée. Et le principe était clair. Donc tous ceux qui présentaient leurs textes devaient aussi bêta-lire les textes du copain. Ceux qui ne présentaient pas de texte, qui sont aussi des bêta-lecteurs par ailleurs, ont fait un travail aussi de bêta-lecture sur ces textes. Donc ça se fait un petit peu de manière spontanée. Hein, chez Cocyclic, c'est souvent spontané, un peu utopique. Mais au final, tout le monde s'est retrouvé avec plusieurs bêta-lecteurs. Et puis ensuite, l'ébullition, bon, elle a été, lorsqu'on a peut-être rallongé parfois les dates ou les calendriers, lorsqu'on a au final attendu les
raccourcis,
voilà,
en fait.
Raccourcis ou lorsqu'au final on a attendu les réponses. Donc là, c'était vraiment la grosse ébullition, l'attente des réponses. Hein, au final, c'était là que c'était la grosse ébullition. On sent qu'il y a du mouvement encore derrière. On a des petits messages où on sent que c'est très intéressant au niveau des retours qui sont faits, du retravail donc, avec Jean-Claude et Jeanne sur la partie. C'est intense, il y a de la pression, mais c'est une pression positive. On entend des formules comme le fait de se réconcilier avec son texte, presque une forme de maïeutique en fait, derrière, où on a l'impression vraiment de tirer la quintessence en fait. Et par le partage, ou à l'oral, par exemple, avec Jeanne, je crois qu'il y a eu des échanges aussi.
Oui.
Et que ça a apporté beaucoup de choses.
Oui, tout à fait. Nous avons travaillé avec certains qui m'ont posé des questions et auxquelles j'ai répondu en direct live.
On a fait un effort aussi, je le précise. On a dit dès le début que le processus serait le plus transparent possible et qu'on ferait vis-à-vis de Cocyclic une restitution de la façon dont on a travaillé. On allait expliquer et on allait autant que possible essayer d'être utile, nous, ontologistes, par rapport au texte qu'ils nous ont proposé. Et à titre personnel, je peux dire que j'ai vraiment eu le sentiment que cette réussite des quatre auteurs, c'est une réussite collective du site. Il y a vraiment eu un support de tout le monde à tout le monde. Et ça c'est très remarquable.
Alors moi, j'avais envie de demander des choses à nos auteurs confirmés, là. Par exemple, Thomas, tu as été un des premiers sélectionnés par le comité de lecture direct avec une nouvelle qui est absolument fabuleuse et qui s'appelle Les Tiges, que j'ai eu la joie de corriger. Comment est-ce que tu as vécu ça, d'être quelque part mis en concurrence avec des tout petits jeunes dans un appel à texte qui n'est plus en fait celui que tu as l'habitude de faire?
Pour te dire la vérité, en fait, j'ai pas trop pensé à ça. Je me suis pas vu déjà dans un système concurrentiel. Je me suis dit, à la base, on m'offre un challenge, c'est d'écrire une nouvelle de Space Opera. Bon, moi, ce que je me suis dit, je vais écrire la meilleure possible et puis essayer d'être sélectionné, tout simplement. Quoi. Moi, comme je fonctionne tout le temps, en règle générale, donc... non, j'ai pas eu de pensée particulière par rapport, justement, à ce système-là.
Et la correction, tu l'as vécu comment?
Bon, la correction, c'était plus difficile. Là, effectivement, ouais, mais...
Parce que c'est là qu'on va vous déprimer, les gens. Vous allez vous rendre compte de deux choses. D'abord, c'est très chiant, et nous, les éditeurs, on l'est. Et même quand vous serez des auteurs confirmés, eh ben, on vous fera quand même chier, et on en aura la preuve ici.
C'est vrai que, bon, moi, j'ai rendu ma nouvelle, effectivement, à Jeanne. Je suis assez solitaire en termes d'écriture, donc, bon, j'ai pas énormément de bêta-lecteurs. Ma seule bêta lectrice étant peut-être juste à côté de moi, donc voilà. Donc elle a lu mon texte et a déjà soulevé quelques petits problèmes que j'ai essayé de régler avant d'envoyer la nouvelle à Jeanne. Et ensuite j'ai envoyé la nouvelle à Jeanne, qui elle a relevé d'autres problèmes et surtout structurels, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons.
On a commencé, oui, par changer des trucs de place.
Voilà, c'est ça. En fait, bon. Ma nouvelle, qui était déjà un puzzle, a été totalement rééparpillée. Et
un blaster lourd et j'ai tiré dedans et ça fait pouf.
Voilà.
Il était furieux.
C'est ça. Et comme j'ai toujours détesté faire des puzzles, hein, on peut imaginer ma patience par rapport à ça. Mais malgré tout, on a eu quand même énormément de communication pendant pendant la correction, donc que ce soit par mail ou par téléphone, on s'est beaucoup appelé aussi, parfois toutes les 5 minutes d'ailleurs, dès que l'un ou l'autre avait une idée pour améliorer le texte. On a beaucoup communiqué là-dessus. C'est ce que j'ai vraiment aimé faire avec elle, parce qu'effectivement, ça a été assez difficile dans les faits, parce que bon, j'avais pas mal de boulot aussi à ce moment-là, et que pouvoir se concentrer sur la restructuration et la réécriture d'un texte, c'est difficile. Mais Jeanne a été, je trouve, extrêmement efficace là-dessus. Et si j'ai souffert, ça a été une souffrance très rapide. Ça s'est fait en 4-5 jours, je crois, à peu près. Donc, en 4-5 jours, j'ai réussi à lui rendre un texte qui, au final, la satisfaisait, a priori, totalement.
Ah, totalement, voilà. Oui. J'ai vu... en fait, c'était comme s'il m'avait livré un diamant brut, et je l'ai vu poli après. J'étais très contente. J'adore les diamants.
Ben, moi, ça tombe bien. Enfin, en tout cas, d'avoir quelqu'un pour m'aider comme ça, moi, je trouve ça très, très important d'avoir un directeur littéraire, parce qu'effectivement... ça m'arrive d'avoir des idées, mais pas de toujours bien les exploiter. Et je trouve que justement le regard extérieur qu'apporte un directeur littéraire est extrêmement important par rapport à ça, parce qu'on est rarement bon juge pour ce qu'on écrit, même si on estime évidemment avoir pouvoir le faire tout seul. Hein, mais on est rarement totalement bon juge, à mon sens.
Et toi, Anne, mis à part les sombres menaces que tu as fait planer sur nos têtes à Jean-Claude et à moi, est-ce que tu as vécu ça?
Quoi? La correction ou le
la
fait...
La correction, que... tout. Le...
Bah, je ne l'ai pas vécu de façon concurrentielle non plus, pour la bonne raison que je n'écris pas de nouvelles à l'origine et encore moins de space-op. Donc, évidemment, je testais. Donc, j'ai été très modeste sur ce coup-là. Ça a été une vraie révélation. Je me suis amusée comme une folle. Pour plein de raisons, et puis j'avais très très peur en envoyant ma nouvelle, évidemment, mais je crois comme à chaque fois, je crois qu'on se départ pas de cette peur du jugement. Et puis Jeanne l'a lu, alors il se trouve que mes bêta lecteurs, j'en ai 3 et ils sont là, donc voilà, Jeanne l'a lu, j'ai commencé à l'insulter, donc elle a dit Jean-Claude va s'en occuper.
Ah non, j'ai dit tout de suite, quand j'ai appelé Anne, je te préviens, quoi qu'il arrive, si tu es sélectionnée, je ne touche pas à cette nouvelle, je tiens à ma peau.
Et tu as bien fait, parce qu'il était question d'actes illicites avec une pelle.
Voilà.
Donc évidemment, avec Jean-Claude, je n'ai pas osé, parce que j'ai eu peur. Donc voilà, et que les corrections ont été très, très enrobées. Il se pourrait que la fin ne soit pas tout à fait compréhensible.
C'est pas du tout. Pas du tout. Non, ça, elle vous raconte des blagues. C'est pas vrai. Parce qu'il faut bien oublier une chose, c'est que nous ne corrigeons pas des gens, nous ne corrigeons pas des amis, nous corrigeons des textes. Si le texte peut être amélioré, quelle que soit la personne en face, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, que ce soit là, hein, on va rentrer dans le texte, on va mettre du rouge partout, on va dire non, la merde, ça peut être mieux. Et en face, oui. On a quelqu'un qui te dit « Mais je t'emmerde, connard, tu vas voir », qui repart après, qui griffonne son truc et qui dit « Tiens, putain, là, tu l'as pris dans la gueule. Ah, » Voilà. Et ça, maintenant. C'est une attitude normale.
Oui, voilà. Alors,
ça,
non, mais c'était très soft. Peut-être que j'ai aussi un seuil de tolérance particulièrement haut. Non, c'était très soft.
Les lecteurs auront rectifié d'eux-mêmes.
Voilà. Et c'est un peu l'habitude... C'est un peu l'habitude de commencer par insulter tout le monde, puis dire « Ouais, c'est vrai quand même », de corriger. Et de rendre. Il y a un moment où j'ai commencé à dire bon là on va arrêter parce que c'est pas du tout parce que j'estime que on peut pas améliorer le texte parce que moi je ne peux plus améliorer le texte. Je fais partie de ces auteurs qui ne se lit pas une fois qu'ils sont publiés parce que je suis malade à chaque fois que je lis une ligne. Une fois que c'est publié en me disant oh, mais j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Mais non mais comment j'ai pu écrire ça, etc. Donc il y a un moment où on a arrêté. Et à un moment, troisième correction pour...
Quatrième, on a pris la version 4.
Voilà, on a dit, bon là, on va arrêter parce que c'était sur un mot, sur une virgule. Mais c'est vrai que, les trois étapes pour moi sur un texte, c'est évidemment, les quatre, imaginer le texte, l'écrire, enfin le rédiger, le laisser reposer, reprendre, essayer d'avoir un œil neuf. Alors ça tombe bien, moi j'ai une mémoire de poisson rouge, donc ça marche très bien. Avoir un œil neuf, le corriger une première fois, et là, en revanche, très important, le directeur littéraire vient apporter une vision complètement neuve, à la fois sur la structure et sur la stylistique elle-même. Et donc, c'est une phase très importante qui consiste à se taper la tête sur le clavier en disant « mais je le savais, je le savais, je le savais ». Parce qu'on s'aperçoit qu'évidemment, quand on a la tête dans le guidon, on fait toujours les mêmes erreurs. Et puis, quand on a fini de faire les mêmes erreurs, on en invente d'autres. C'est ça qui est merveilleux. C'est qu'on retrouve des tics au fur et à mesure. Donc, ça a été douloureux, mais comme Jean-Claude m'a promis de me payer des mojitos pendant 4 jours, ça compense.
J'ai déjà commencé.
Ils n'ont pas eu droit aux mojitos. Hein.
Ah, mais ils n'avaient qu'à être là. Hein.
Non, il faut avoir souffert pour ça.
J'ai pas promis de mojito au malheureux qui avait la détresse d'être corrigé par moi. En revanche, j'ai promis que lorsque le texte serait sorti de nos pattes communes, il serait content de l'avoir écrit. Et apparemment, c'est ce qui s'est passé. Et je regrette d'ailleurs que ni Aurélie, ni Célia ne soient là aujourd'hui. Elles seront avec nous à Bagneux. Elles auraient pu parler de la correction telle que nous l'avons vécue toutes les trois, mais pas ensemble, parce que ces choses-là se font à deux et dans l'intimité, n'est-ce pas ? Oui, la partouze en littérature, ça marche pas. Voilà. Et elles auraient pu nous en parler, mais elles ne sont pas là, hélas.
Il y a toujours une difficulté, personnellement, je l'ai ressenti en travaillant avec des gens dont je respecte les textes, je pense que ça a été le cas de Anne, c'est jusqu'où peut-on aller ? Il est d'abord clairement hors de question de proposer une solution. La solution, c'est l'auteur qui doit la trouver.
Je ne fonctionne pas comme Jean-Claude, moi, mais donc je vais le laisser parler.
Donc mon idée, c'était plutôt de mettre à un endroit en disant, voilà, là j'ai le sentiment que, d'essayer d'expliquer pourquoi, de démonter, de dire j'ai une espèce de vide qui manque, ou j'ai une chose qui me gêne, ou j'ai une information qui me perturbe.
Et c'est personne n'est dupe. non, bien sûr, mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est vraiment dérangeant de dire à quelqu'un non, là ça ne marche pas, et c'est tel mot à la place d'un autre, ou voilà, je pense que les deux fonctionnent.
Mais un mot à la place d'un autre, c'est un détail. Par contre, je pense par exemple au cas de Laurent Genefort, là, qui doit être dans le public.
Et qui devrait se lever à faire ou l'applaudition.
À un moment donné,
arrête de garder le sac de ta copine, lève-toi.
Sur la fin de son texte.
C'est le monsieur à lunettes là, qui dit non. Oui. Là, voilà.
Mais Laurent, on a déjà travaillé ensemble sur des bouquins, puis on va encore travailler ensemble sur des bouquins parce qu'on a des projets. Et c'est un écrivain que je respecte et que je dirais que je scrute depuis des années parce que je trouve sa manière d'écrire, en particulier les écologies, les environnements exogènes et extraterrestres, tout à fait fascinante. Il a une façon de les faire qui est très remarquable. Bon, donc moi je suis à un moment donné allé le faire chier, il n'y a pas d'autre mot, en lui disant voilà, ton texte a besoin d'un rebond, et j'ai donné un exemple de ce qui pourrait être le rebond sous la forme d'une phrase ou d'une demi-phrase. Et ce qui m'a un peu perturbé, c'est qu'il a mis presque la même. Et je me suis dit, c'est dommage, il aurait pu mettre la sienne à lui. Mais je pense que, bon, il a dû penser que ça pouvait fonctionner, ou il a dû penser qu'il voulait me faire plaisir, ce qui est une erreur. Mais il ne faut pas faire plaisir à son éditeur, il faut se faire plaisir à toi. Le bon éditeur, c'est quelqu'un dans lequel tu dis, attends, mais lui, je vais lui exploser la gueule, je vais lui montrer que son truc, c'est de la merde, et je vais faire mieux que ça. Et là, on vous a arraché le meilleur, et là, vous êtes bon. C'est ça, un bon éditeur. Donc, mon but, c'est plutôt d'essayer de dire, voilà, là, je ne l'ai pas bien senti, il faut que tu me le montres, il faut que tu me le racontes. Et je sais qu'avec Anne, c'était fabuleux, parce que l'avantage de ces cas-là, c'est qu'on lit le texte, on dit, ok, je le prends. Maintenant, on le relit, on le re-relit, on dit, voyons, qu'est-ce qui peut être... Qu'est-ce qu'on peut presser plus pour qu'il y ait plus de jus ? Comment est-ce qu'on peut le rendre plus punch, plus violent, plus prégnant, plus nécessaire, plus indispensable ? Comment le texte va-t-il aller jusqu'au bout de lui-même ? Et on ne fait pas le même travail nécessairement d'un texte à l'autre, mais on fait le même travail qu'on ait affaire à un débutant ou à un confirmé. Quand on a affaire à un débutant, on peut se permettre de rajouter un paragraphe à la fin en disant « Bon, ta typographie est merdique, il faut faire ci. Rappelle-toi, quand tu présentes une nouvelle, il faut faire ça. » Mais c'est du détail de base, vous voyez ce que je veux dire ? Je n'ai pas besoin de faire à Anne. Mais tout le reste, le travail sur le texte, c'est le même. On est chiant de la même façon. Et ça ne s'améliorera jamais. Ce que je veux dire, c'est que dans ma carrière d'éditeur, j'ai fait chier Michel Jury. Vous imaginez Michel Jury. De temps en temps, je me regardais, je me disais, putain, mais c'est Michel Jury. Je le faisais chier quand même.
Moi, il m'est arrivé de faire chier Jean-Claude Vignac. C'était horrible.
Pour moi, oui. J'en garde le souvenir d'une grande douleur anale. Mais bon,
je suis vraiment désolée.
Finalement, j'aurais pu prendre l'appel. Ouais, hein.
Mais je l'ai à l'hôtel, si tu veux, je t'apprêterai.
Donc voilà, il faut que vous sachiez que ça ne sera jamais bien. Ça pourra toujours être mieux. Et c'est parce que ça pourra être mieux que c'est excitant. Et ce qu'on espère, et je pense que c'est le cas hein, pour les textes qu'on a lus, je pense que le texte publié est meilleur que le texte qu'on avait reçu la première version. Je le pense, pour chacun des textes qu'on a lus. où on a le sentiment qu'il y a eu un petit plus, peut-être cosmétique à certains endroits, mais pour un certain nombre de textes, j'ai vraiment eu l'impression que oui, ça, je sais pas, ça allait plus loin. Vous voyez ce que je veux dire, ça a explosé plus. Il y avait plus d'énergie, c'était plus lumineux. Le diamant était mieux taillé, pour reprendre l'expression.
Cela dit, je ne fonctionne pas tout à fait pareil que Jean-Claude. Et aucun de mes directeurs littéraires que j'ai eu, moi, dans ma carrière d'auteur, ne fonctionne tout à fait pareil qu'aucun autre. Dans ma démarche à moi, il y a effectivement la remarque formelle, cette scène n'est pas à sa place, éventuellement il manque un détail là, ou ceci n'est pas cohérent, qui sont des remarques d'ordre général que je fais en général en fin ou en début de nouvelle. Donc. Mais il m'arrive d'intervenir dans le corps du texte pour dire, en fait, cette phrase-là ne me va pas, je ne sais pas pourquoi elle ne me va pas, donc je te l'écris comme moi, je l'aurais écrite, ce qui ne veut pas dire que tu dois la prendre. C'est ce que tu disais à propos de Laurent tout à l'heure. Je suis beaucoup intervenue comme ça sur les textes de Cocyclix qui m'étaient confiés, d'autant plus que, effectivement, j'avais affaire à des jeunes auteurs qui pouvaient ne pas prendre en compte complètement la remarque d'ordre général. Donc j'étais beaucoup plus intrusive, d'une certaine façon, avec les jeunes auteurs de Cocyclix. Cela dit, le marché était clair, c'était si la modification que je vous propose vous satisfait sur le fond, mais pas sur la forme, utilisez. Refaites-la, proposez-moi une autre solution. Mais surtout, on ne garde pas la première forme. L'autre, c'était, si ma formulation te convient, enjoy, c'est cadeau. Il n'y a pas de problème. Les auteurs Cocyclix ont fait le choix à, je dirais, 70% de reformuler ce que j'avais proposé, ce qui m'allait très bien. J'aurais même aimé que ça aille un peu plus loin, mais ils étaient déjà tellement stressés et puis les délais si courts que bon, on n'allait pas faire 8 versions d'un même texte. Après, c'est plus possible. Voilà.
Oui, c'est un point important ça, et c'est vraiment un message à passer à tous les jeunes auteurs. Quand un éditeur vous fait une correction, vous suggère quelque chose ou vous impose quelque chose, il n'a pas toujours raison. Si ça vous paraît lumineux ou si ça vous paraît source de réflexion, très bien. Si ça vous pose un problème, ça veut simplement dire qu'il y a un problème à cet endroit-là et que vous devez repenser. Mais pas nécessairement en écoutant ce qu'il vous dit. Et surtout pas en écoutant ce qu'il vous dit. Et que la grande spécialiste, c'est Anne qui m'a fait ça deux ou trois fois, à qui à deux ou trois endroits, j'ai dit, là j'ai un souci, pour moi il faudrait aller vers là, et tu es allé directement à l'opposé, et qui a fait ça très bien, et ça marche.
Mais ça c'est son caractère, elle ne peut pas faire autrement.
Mais je veux dire, si elle a raison, et si c'est meilleur, moi je ne demande pas mieux. Je ne demande pas mieux que l'auteur me convainque qu'il a raison d'une façon convaincante.
J'ai refusé très peu de corrections. Il n'y a qu'un plateau d'argent qui m'a dérangé, parce que c'était très, très dans ton univers, l'idée du plateau d'argent. On apporte des outils sur un plateau, alors que moi, je ne voulais pas du tout de plateau d'argent dans l'espace. C'était ma limite. Voilà, je ne suis pas aussi assez baroque pour ça. C'est clair qu'il ne faut pas tout attendre de son éditeur non plus. J'en ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps, puisqu'on m'a demandé un texte sur un thème particulier. Il se trouve qu'il y a des années, avant même de penser à envoyer un texte, j'avais écrit une nouvelle sur le sujet. Du coup, j'avais gardé l'idée, parce que l'idée était plutôt bien. Je réécris le texte, puis à un moment, j'avais un doute sur un nom. J'avais inventé une espèce, donc il me fallait un nom. Donc je retourne dans cette vieille nouvelle. Et là, je m'aperçois que c'est la même histoire. Le même personnage, le même monde, exactement. Effectivement, c'est très vivace parce que je trouvais l'idée vraiment bien, mais que je m'étais plantée sur tout le reste. L'angle, déjà. La formulation, j'avais choisi des facilités d'auteur, c'est-à-dire que j'avais tout mis à la première personne. Et
c'est une pierre dans le jardin de Thomas.
C'est un petit coup en douce et voilà, et en fait que la nouvelle était la même avec le même, mais que j'avais choisi le mauvais angle parce que débutante et que ça me semblait plus facile comme ça. La première chose, avant même de présenter un texte à un éditeur, faut pas attendre de l'éditeur de toute façon qu'il fasse le travail. Il est là pour effectivement suggérer, avoir un autre œil, un œil neuf, un œil professionnel aussi. Mais il faut garder à l'esprit, je
pense que quand on est face à son texte, il faut avoir la distance nécessaire pour dire d'accord, là c'était facile. Est-ce que je me suis vraiment mis en danger dans ce texte? Est-ce que j'ai vraiment bien utilisé l'angle? Est-ce que finalement j'aurais pas pu faire ça autrement? Et je pense que cette question qui revient tout le temps dans la deuxième phase, donc pas la troisième phase, pas la rédaction, mais l'autocorrection, est très importante. Et à ce moment-là, un texte est présentable. Là, on peut le présenter à un éditeur. Et du coup, on peut dire à un éditeur, non, je défends mes idées parce que c'est vraiment réfléchi. On a vraiment essayé d'avoir cette distance et ce travail sur ce texte.
Voilà, et se rouler par terre pour une virgule, c'est...
Non, mais ça, c'est normal, hein, sinon c'est pas drôle.
Non, les gens ne se roulent pas. Par contre, une question, par exemple, si on essaie de faire une petite synthèse par rapport au texte de Cociclix qu'on n'a pas pris, parce qu'on a quand même, on a tout lu et on a tout regardé, on a discuté un certain nombre de textes, et il y a eu quelques textes qui ont été dans la zone d'hésitation, je dirais. Il y a des espèces de remarques assez générales qu'on peut remarquer. D'abord, un texte de pro, c'est peut-être une caractéristique, ça commence là où ça doit commencer. Il y a des histoires que les gens écrivent en passant plusieurs pages pour vous dire, attendez, je suis obligé de vous dire tout ça avant de commencer mon histoire proprement dite. Et un éditeur pro, enfin un écrivain pro, il vous dira pas ça. Il va vous mettre dans le bain d'entrée, il va commencer là où ça commence, et quand il aura besoin que vous soyez un peu rattrapé par les cheveux avec de l'information, il le mettra, mais seulement à ce moment-là.
Oui, enfin, celui qui est en train de vous dire ça, c'est celui qui a l'art de la micro-information à ne surtout pas louper.
C'est facile.
Sous peine de plus rien comprendre à la fin. C'est la gestion absolue de l'information qui vous parle.
T'appelles, tu l'avais avec ou sans élan?
Non, mais cela dit, c'est vrai. Voilà, c'était mon intervention intelligente de la soirée.
C'est les moritos, ça.
Non, mais c'est vrai. Moi, je m'en suis aperçue avec cette fameuse nouvelle où c'était très joli, c'était très poétique, c'était très lyrique. Je crois que j'ai jamais aussi bien écrit que dans cette nouvelle, donc La Vieille. Qu'est-ce que c'était chiant, mais chiant, vraiment, parce qu'on mettait 3 heures à rentrer dans un univers, finalement, qui était intéressant que dans l'action. Et je crois qu'effectivement, c'est la différence entre un premier texte et une fois qu'on a passé la barrière de la publication, c'est qu'après, on se méfie des passages qu'on adore dans ce qu'on écrit. Voilà, les passages qu'on a adorés en général ennuient tout le monde. C'est louche. Quand on a adoré un passage, c'est que c'est louche. D'ailleurs, mon éditrice, Mireille Rivalon, est très bien pour ça, parce qu'en général, elle le barre en mettant sa bavarde. Voilà. Et en général, c'est le passage qu'on a adoré, joli, travaillé, lyrique, etc.
Le moment où elle bouffe des raisins, c'est ça?
Ouais.
Avec les petits commentaires en rouge dans la marge. Bon, maintenant que tu t'es fait plaisir, si tu pensais un peu à nous.
Voilà.
Et ça, c'est vraiment ça, quoi. Moi, j'ai la chance d'avoir eu un éditeur absolument terrifiant. Vraiment quelqu'un d'une cruauté, d'une précision d'entomologiste, vraiment, qui me clouait les ailes de mes papillons sur la plaque de Liège en disant « Toi, tu bougeras pas. » Là, c'était ma maman. Bon. Et en particulier, mon premier roman, et je ne plaisante pas, le manuscrit a été cédé à la Bibliothèque nationale de France, comme exemple. Il était photocopié sur une page et elle écrivait les commentaires en rouge sur l'autre page. Il y a plus de rouge que de noir. Je veux dire, Stendhal enfoncé, là, complet. Mais elle me faisait des commentaires du genre... Page 124, tu utilises telle métaphore pour tel personnage, que tu réutilises page 463 pour un autre personnage. Tu n'es donc pas cohérent. Et avec la référence 1, et j'allais page 463, il y avait la référence 2, tu vois avec le point d'exclamation. Bon. Vous voyez, c'était ça. Donc, les gens qui faisaient véritablement ce travail. Et là, on se rend compte qu'on est obligé de tout micro et macro manager. Et la question de savoir quand est-ce que ça commence, par où on regarde, et puis qui parle. Qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce qu'il y a autour? Qu'est-ce que je ne dis pas mais qu'on devrait sentir? Vous voyez toutes ces choses-là. La question de qu'est-ce que je ne dis pas mais qu'on devrait sentir, c'est une question fondamentale. Il y a la grande spécialiste là ici à gauche, hein, donc moi j'ai pas de souci avec ça, c'est vraiment pas un problème que j'ai eu dans sa nouvelle, mais il y a tellement peu de gens qui savent le faire. Le travail qui dit j'ai raconté une histoire et en dessous il y a plein d'autres choses qui ont poussé comme des mauvaises herbes dans les interstices des dalles, vous voyez ce que je veux dire, j'ai mis mon chemin de dalle bien propre, vous l'avez suivi, mais en fait vous avez marché sur plein d'herbes qui... et c'est là que l'histoire s'est passée. Ben ça c'est je dirais peut-être la marque d'un certain nombre de pros, et chez les gens de Cociclique à un certain moment donné j'avais envie de dire où est ta couche en dessous, où est ce que tu caches, montre ce que tu caches et pas déshabille-toi un peu plus dans les interstices de ton texte. Ça a été une réflexion très générale.
C'est les moritos, c'est rien. Ça le pousse tout de suite à la métaphore sexuelle.
Donc vous avez compris, en résumé, pour publier, il faut se déshabiller.
Voilà.
Se déshabiller devant son clavier et tout seul. Hein, parce qu'après, je vous rassure, quand on est... malheureusement, ça ne...
Ce qu'il y a de terrifiant, c'est qu'en fait, on n'apprend jamais. Thomas, ici présent, est éditeur aussi, entre autres, et donc il doit faire subir à ses ouailles exactement la même chose que je lui ai fait subir. Et j'aimerais bien que tu nous en parles, toi, de ton editing à toi. Mon editing à moi,
c'est... C'est beaucoup plus facile de parler de son propre editing que de celui qu'on subit, enfin, je trouve.
C'est bien pour ça que je t'en parle.
Ah ouais, c'est sûr. Mais bon, donc, ouais, effectivement, j'ai une maison d'édition qui s'appelle Ad Astra. Donc, bon, on n'a pas publié beaucoup de bouquins encore dans la maison. Hein. On en est à 5. Et... Par contre, j'ai pas fait d'editing sur des nouvelles. On a publié une anthologie qui s'appelle Contes de ville et de fusée, mais qui a été totalement dirigée par une spécialiste du genre, donc Lucie Chenu. Elle a sélectionné les textes, elle a retravaillé les textes. Moi, la seule chose que j'ai faite, c'est de relire les textes à la fin et voir s'il n'y avait pas encore des fautes d'orthographe qui traînaient. Voilà, c'est la seule chose que j'ai faite. Bon, par contre, pour les romans effectivement que j'édite chez Ad Astra, le travail est différent puisque là, effectivement, c'est moi qui ai fait le travail littéraire. Mal, le disent certains d'ailleurs. Enfin, disons que, en tout cas, pour le premier roman de Laurent Wall, par exemple, qu'on a édité, Les Pilleurs d'âmes, effectivement, j'étais encore très très novice dans le domaine, donc il y a des petites choses qui sont passées.
Mais ce roman a obtenu le prix Ronnie cet Merci. Été, donc.
Je n'y parle malgré tout que j'aurais enfin, ça c'est le côté on aimerait toujours faire mieux. J'aurais voulu encore faire mieux sur son roman, donc j'étais encore trop novice pour le faire, mais on en éditera un prochain et j'espère encore faire mieux, donc aura peut-être un Hugo, hein, on va savoir.
Voilà, un Nebula. Voilà.
Mais effectivement, donc maintenant je travaille systématiquement chapitre par chapitre, phrase par phrase, je relis plusieurs fois, je suis extrêmement pointilleux là-dessus.
Ah oui, alors je voulais te soumettre un texte, je sens que je vais arrêter tout de suite cette idée, finalement.
Je vais continuer comme ça, alors.
Je ne sais pas si ça transparaît, mais nous tous ici sur scène, on se connaît et on s'échange les textes depuis longtemps. C'est-à-dire que le phénomène de type co-cyclics, où des auteurs, entre guillemets, débutants se retravaillent les uns les autres, et bien, quand on est un auteur confirmé, on ne le fait pas par co-cyclix, mais on le fait directement par mail entre les uns et les autres. Mmh. On se lit. Et clairement, on ne peut pas dire qu'on s'édite à ce moment-là, parce qu'on est dans un travail de collègue, mais on fait tout le travail dont on se dit que l'éditeur ne le fera peut-être pas, parce qu'il n'a pas le temps, et donc on fait ce boulot-là. Donc soyez bien conscients du fait que ça n'arrête jamais. Mais soyez bien conscients aussi du fait que, de toute façon... C'est passionnant de reprendre son propre texte en se disant « il y a plus dans mon texte que ce que moi-même je pensais y mettre ». Ça, c'est déjà un premier travail. Se dire « il y a quelque chose de plus » et la personne qui est en face de moi, qui l'a lu, a vu quelque chose dans le texte qui mérite peut-être que je m'y attarde. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est malheureusement une chose embêtante, on sait écrire ses anciens textes, on ne sait jamais écrire les nouveaux. Chaque fois que j'ai écrit une nouvelle, je me suis trouvé confronté face à une difficulté que je n'avais pas rencontrée dans les précédentes. Et c'est la raison pour laquelle j'avais envie d'écrire ce texte-là. Refaire le même texte ne m'a jamais intéressé. Donc, chaque fois, je me retrouve dans la position du débutant. La seule chose que j'ai par rapport à un véritable débutant, c'est que je sais que je vais la terminer. Parce qu'en ayant terminé un certain nombre de précédentes, je sais que je vais aller jusqu'au bout, ne serait-ce que parce que j'ai la rage. Mais c'est la seule chose que je sais. Savoir par où je vais passer, je n'en ai pas la moindre idée. Et j'ai toujours besoin de mes petits camarades qui lisent et qui me disent « oui, ça passe ou ça passe pas ».
En tout cas, effectivement, ce qui nous a notamment poussé à faire appel à Cocyclix, c'était cette démarche spontanée, on va dire, de collectif autour des textes, qui pour une fois était affichée de façon officielle. Et nous avons eu envie, en tant qu'anthologiste, de promouvoir cette façon-là et de permettre à Cocyclix de faire ses preuves en même temps que nous, d'une certaine façon. Ce qu'ils ont fait brillamment. Et avec, ils ont joué le jeu avec une franchise absolue. Tu veux ajouter quelque chose ?
Oui, sur Cocyclix, rapidement, donc là, on a parlé des nouvelles. Donc, Cocyclix, c'est aussi du travail sur les romans, puisqu'on parle des jeunes auteurs. Donc, à ce jour, effectivement, il y a eu d'autres résultats aussi que ces résultats très satisfaisants avec Destination Univers, donc avec la parution de 6 romans avec la stampille co-cyclique. Donc 6 romans qui ont été édités, qui ont trouvé preneur chez les éditeurs, et d'autres qui sont en cours d'études, et d'autres qui sont en cours aussi de bêta-lecture et en cycle. Voilà, simplement un mot de plus par rapport à co-cyclique.
Moi, ce qui m'a toujours impressionné dans co-cyclique, c'est que lorsqu'on a annoncé les résultats, par exemple, il y avait donc plus de 40 contributeurs, et on en a choisi 4. Eh bien, ils ont été félicités par les autres. Ça, c'est une chose, ça fait quand même rêver. J'ai connu ce milieu pendant plusieurs décennies, malheureusement. J'ai dit malheureusement parce que ça veut dire que j'ai quand même un petit peu de bouteille. Et c'est vrai que les félicitations sincères de « t'as été pris dans l'anthologie et pas moi », c'est quand même pas si courant que ça. Et là, on avait le sentiment de quelque chose vraiment de joyeux. Avec, c'est étonnant qu'on soit si nombreux. C'est vrai que pour nous, c'était étonnant qu'il y ait eu autant de textes de bon niveau. Parce que, comme je vous dis, on en a pris 4. Et croyez-moi, on en a pris 4 face à des gens qui s'appellent Fakouri, qui s'appellent Genefort, qui s'appellent Guerre. Enfin, la compétition était rude. Hein.
Quoi ? Et Olivier Paquet.
Olivier Paquet, oui. La concurrence était vraiment costaud. On ne vous a pas fait de cadeau. Et clairement, vous pouvez dire, ben, je suis au niveau, je suis à côté de mes petits camarades et je fais partie du club.
Oui, je complète effectivement. Il y a beaucoup d'émulation chez Co-Cyclique. On passe tous par un cycle.
De l'émulation au sens, voilà. Au bon sens du terme.
Au bon sens du terme.
Pas au sens concurrentiel. Hein, voilà. Ça ne marche pas sur la tête.
Une émulation, une stimulation. Et on a tous un petit défi à relever. On passe tous par les mêmes souffrances, par les mêmes interrogations. On apprend à faire le dos rond quand on a des critiques, à essayer de les digérer pour essayer d'en faire quelque chose derrière qui améliore le texte. On partage tout ça et ça nous soude vraiment, on est très unis. Voilà. Donc, ça participe aussi quand même à Co-Cyclique, c'est quand même une donnée fondamentale chez Co-Cyclique, c'est qu'il y a quand même une super ambiance, une super convivialité qui fait aussi que derrière on a la pêche pour travailler les textes et puis pour avancer. Quoi. Il y a quand même ça aussi. Oui.
Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Oui ?
Il y a des petits camarades là, ici, profitez-en. Ouais.
Moi non.
Non.
Voilà, pas plus loin.
Ah bon. C'est mieux. Je serais intéressé justement, puisque vous parlez de la génétique en fait des textes.
Oui.
Et ça serait bien peut-être de faire des dossiers par rapport à un exemple intéressant ou deux. Et en faire une publication, qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est ce que nous avons prévu de faire, mais pour Bagneux, dans la mesure où à ce moment-là, les textes seront sortis, imprimés et disponibles, les textes finaux. C'est un final des finaux, un chacal des chacos, oui. Je ne sais plus.
Un chapal des chapeaux.
Voilà,
ne vous inquiétez pas, elle est corrigée avant d'être publiée.
Très très peu, parce que sinon je fais un sketch. Nous allons faire effectivement ces dossiers-là, Jean-Claude et moi, lorsque l'anthologie sera sortie. Avant, c'est un peu difficile parce que nous craignons de dévoiler les sujets. Ouais. Voilà.
Je comprends.
Mais c'est vrai que ça serait intéressant de voir effectivement quelles sont les critiques et le barbouillage de rouge. Nous, on travaille avec des documents de texte qui permettent de faire du suivi de modifications. Et donc, par conséquent, quand on barre quelque chose, quand on rajoute quelque chose, ça ne disparaît pas, mais c'est par exemple en rouge barré ou en bleu inséré. Et on peut facilement voir quelles sont les modifications. Et on se rend compte qu'elles ne sont peut-être pas très importantes, mais qu'elles vont dans le sens d'une démarche que l'éditeur essaie de faire partager à l'auteur. Et le travail de l'auteur, c'est de repasser derrière et de dire « Je suis d'accord ou pas avec ta démarche et je te propose la mienne en échange » pour résoudre le problème que tu vois. Parce qu'on est bon à identifier les problèmes, mais les solutions doivent venir de vous. Les solutions, c'est les vôtres.
Tu c'est ça qui est difficile. Tu veux dire quelque chose, Thomas ?
Ouais, justement, pour revenir sur la façon de travailler avec Jeanne, c'est qu'elle, elle a une technique bien particulière, c'est qu'elle utilise Word.
Le suivi de modification.
Voilà, voilà. Et le problème, c'est qu'elle a commencé à râler un petit peu parce que je n'avais pas suivi le suivi de ses modifications. Sauf que moi, je n'ai pas Word. Donc, je ne peux pas les lire, tout simplement.
Donc, il ne les avait pas vus.
Voilà.
Quelle modification
C'était exactement ça.
Voilà.
Et donc, bon,
qu'est-ce qu'elle me raconte ?
J'étais obligé d'aller retravailler en librairie pour trouver un Word et pour travailler sur la nouvelle pendant que je faisais de la librairie. Voilà.
Vous avez vu si je suis cruel.
Et pour revenir aussi à la génétique des textes, des textes, pour revenir à la génétique des textes, ce serait peut-être aussi intéressant d'introduire ce thème de la génétique des textes dans un roman ou même dans une nouvelle, se servir de cette progression pour arriver à une fin très très surprenante, non ?
Ah, mais écris-nous là, ah bon, s'il te plaît.
Pas de problème, c'est quand vous voulez.
Il y a d'autres questions dans la salle ? Une jeune fille là-bas ou un jeune homme, je ne vois pas bien, je suis vraiment désolée.
On va savoir, le suspense est insoutenable.
C'est un jeune homme.
Merci. C'est pour savoir, par rapport aux co-cycléens, si, comme ils sont rompus au bêta-lecture, s'ils se font plus facilement corriger que les auteurs professionnels.
Ça veut dire quoi, plus facilement corriger ?
Est-ce que ça veut dire que la menace de sodomie avec une pelle que certains font planer plutôt sur la tête des anthologistes est commune chez les auteurs confirmés ? C'est ça ta question ? Alors que de jeunes auteurs auraient tendance à être plus soft et plus souples ?
Non, on ne demande pas à un auteur d'être souple, on lui demande d'être professionnel. Parce que d'abord, on ne corrige pas un auteur, on corrige un texte. Quand je dis « là, c'est verbeux, là, ça ne commence pas là où il faut, là, l'angle de vue me gêne », je ne suis pas en train de dire à la personne en face « tu es nul, tu es mauvais, tu ne sais pas regarder ». Je suis en train de dire « cet objet, ce texte qui n'est pas toi, qui n'a rien à voir avec toi, mais qui est quelque chose dont tu es le propriétaire mental, si je puis dire, va avoir besoin d'être retravaillé, mais ce n'est pas toi ». Je ne suis pas en train de te dire « t'es trop gros, t'es trop con, tu comprends rien, c'est ça ». Or, il y a un certain nombre de gens qui sont toujours en train de dire « mais tu me touches ma virgule, là, mais tu es en train de me frapper au cœur, là, je souffre ». C'est pas vrai.
C'est jusque au fond du cœur, une virgule imprévue, aussi bien que mortelle.
Je suis pas du tout convaincu qu'un auteur débutant ou un auteur professionnel est un changement par rapport à ça. Ceux qui sont des écorchés vifs resteront des écorchés vifs. Ceux qui sont des gens qui disent « ok, c'est autre chose, c'est une création, mais ce n'est pas moi », le feront comme ça.
Attends, excuse-moi, ouais. je te refile la parole après. Cela dit, les gens de Cocyclique sont effectivement des gens qui ont été très faciles à corriger. Malgré tout, les jeunes auteurs ne le sont pas souvent. C'était ça qui était très étonnant. En général, un très jeune auteur ne comprend pas la fidélité de l'éditing et même ne l'admet pas. C'est-à-dire, là, on touche vraiment, c'est ce que disait Jean-Claude, au vital. Et il faut vraiment démontrer et redémontrer que non, le vital, c'est la fin du texte. Et nous accueillons Silène, c'est membre du collectif.
Une des fondatrices,
voilà.
Excusez-moi pour le retard, je devais ramener mon groupe d'élèves à leurs parents.
Eh bien, présente-toi.
Oui, alors moi je suis permanente donc, du collectif et j'œuvre au quotidien pour faire marcher tout ce forum, tout ce travail. Et par ailleurs, je suis une des co-auteurs du Guide des éditeurs. Donc, travail qu'on a mené l'année dernière. Il a été publié l'année dernière à la même pour les Utopiales. Il est épuisé. Ça a très bien marché. Donc, on travaille sur une nouvelle version. Alors, il s'agit donc d'un guide pour aider les jeunes auteurs qui veulent envoyer leurs manuscrits. On s'est bien rendu compte en discutant avec nos auteurs qu'ils étaient un peu perdus, ils ne savaient pas trop où envoyer, puis surtout, ils envoyaient parfois n'importe où. Donc pour les éditeurs, c'était un problème parce qu'ils reçoivent beaucoup trop de manuscrits pour pouvoir tous les lire. Et du coup, les jeunes auteurs sont perdus dans la masse. Donc on a réfléchi à un document qui leur permette de savoir où envoyer, en appelant les éditeurs, leur demandant ce qu'ils attendent exactement, s'ils avaient une chance aussi d'être publiés. Donc on leur a demandé s'ils publiaient des jeunes auteurs francophones, et puis aussi leur délai de réponse, ce qu'ils attendaient, s'ils voulaient bien des séries, s'ils voulaient des présentations particulières. Et on en a fait un guide. On a adjoint à ce guide, grâce à Jean-Claude, toute une présentation pour montrer un petit peu ce que les éditeurs peuvent attendre d'une soumission. Donc, en termes de présentation.
En termes de format, présentation, enfin l'intendance, quoi, pas du tout le contenu. Hein. Mais des pages simples, des interlignes doubles, vous voyez, photocopiées d'un côté, ce genre de bêtises. Quoi. Et c'est important à savoir.
Donc c'est vraiment un guide pratique et on veut continuer comme ça parce que ça a très bien marché, ça a beaucoup intéressé nos jeunes auteurs et puis on espère que ça évite aux éditeurs d'en recevoir trop de choses qui ne leur conviennent pas.
Ah, mais du coup, ils ont des coups de fil, hein, c'est ça?
Ouais. Non, alors on évite de faire ça, parce que justement, c'est ce qu'on explique aussi, c'est que de toute façon, il y a un chemin, c'est de soumettre quand on est jeune auteur par la poste, c'est comme ça. On sait très bien qu'il y a très peu de résultats derrière, mais bon, autant le faire bien. Voilà. Et on dit aussi aux auteurs qui nous entourent que ben, c'est le jeu de toute façon. On ne peut pas essayer de passer par la petite porte en permanence. S'il y en a qui s'ouvrent, tant mieux. Mais de toute façon, c'est leur travail qui leur permettra d'y arriver s'ils peuvent y arriver.
Et le pire, tu vois, si on est en train de déprimer tout le monde, parce qu'on leur dit effectivement déjà l'étape de soumission, c'est long, c'est difficile, c'est fastidieux. Et ben, quand vous aurez été accepté, si vous l'êtes, ça va être encore pire parce que vous allez avoir affaire à des éditeurs qui vont vous pignocher jusqu'à la gauche votre texte, vous le démonter, vous le remonter, vous l'exploser à la chevrotine parce que c'est le jeu. Et le pire, c'est que entre vous et nous, ça va bien se passer et qu'on va tous les deux trouver que c'est passionnant. C'est ça le miracle.
Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur les jeunes auteurs qui avaient peut-être plus de mal. C'est parce que quand on n'a pas été publié, qu'on écrit quelque chose, on l'a corrigé, on est déjà au maximum. Voilà. Et on n'a pas du tout conscience qu'une fois publié, en fait, non, on s'aperçoit que tout le chemin est à faire. Ce n'est pas une finalité de publier, c'est vraiment le début de quelque chose qui, effectivement, est beaucoup plus difficile, qui nous met face à beaucoup plus à nos erreurs. Et c'est là où on est, évidemment, beaucoup plus modeste aussi et apte à être corrigé et à se corriger plus facilement.
Finalement, en fait, si vous devez mettre de l'ego dans votre texte, attendez qu'il soit publié. Dites-vous que c'est à ce moment-là qu'il faut les défendre corps et âme. Avant, ça n'est pas les défendre que leur laisser faire n'importe quoi. Je te donne la parole.
Et pour répondre à la question aussi côté co-cyclique, je peux dire que oui, il y a quand même parmi les auteurs qui vont jusqu'à être sélectionnés comme bêta-lecteurs, un état d'esprit commun qui est quand même d'être peut-être un peu plus discipliné que d'autres et d'accepter et d'absorber plus facilement les remarques et le fait de retravailler ensuite sur le texte. Donc les co-cycliciens, je ne sais pas pour les auteurs confirmés, mais pour les co-cycliciens, il y a quand même cette tendance.
Bon, je pense qu'on va être amené à conclure un petit peu malheureusement, là, puisqu'on nous a demandé de finir à 7h30. Il doit être pas loin de 7h30. Est-ce que vous avez... Je vais demander d'abord s'il y avait une dernière question. Il y a une dernière question dans la salle. Est-ce que vous avez encore des arcanes que vous voulez connaître?
Oui, moi j'en avais une, en fait, qui est toute bête. C'est qu'il y a un certain nombre d'appels à texte qui existent et qui sont ouverts donc aux amateurs, qu'on peut être, entre autres, acrocyclique. Malheureusement, et je pense que c'est ce qui faisait toute l'exception et la qualité de votre appel à texte, c'est que derrière, il y avait effectivement un retour. La majorité du temps, c'est vrai que vous recevez une lettre ou un retour type un peu laconique qui dit ben non, point. Donc en fait, le vrai problème, et c'est pour rejoindre un petit peu le commentaire que faisait Jean-Claude tout à l'heure, c'est vrai que la majorité du temps, on a un angle d'attaque qui n'est pas forcément le bon, mais on n'a pas forcément conscience des faiblesses ou des points sur lesquels on aurait à améliorer un petit peu cette approche, et que malheureusement, les retours qu'on reçoit ne n'aident pas. Alors, bon, c'est vrai que ça permet peut-être de faire un filtre par rapport aux éditeurs, etc., mais c'est vrai que pour un certain nombre d'autres gens, ça représente sans doute une perte de temps qui était compensée parce qu'il y avait justement cet effet de retour direct par rapport au texte.
Par définition, et ça sera le mot de la fin, par définition, le travail que tu demanderais là à tous les éditeurs de France est carrément pas possible à réaliser. Nous l'avons fait et nous avons décidé que ça fonctionnerait comme ça, d'où les cahiers prévus pour Bagneux, mais c'est une démarche d'ordre pédagogique, on va dire, dont on espère que les auteurs ultérieurs s'inspireront pour comprendre comment ça fonctionne. Mais il est clair et évident qu'aucun éditeur sur le marché n'a le temps de faire ça pour tout le monde. Il faut vous tourner vers les amis, ceux qui... Et j'entends par amis, pas forcément des connaissances, des gens qui vont avoir un regard de lecteur sur vos textes. Parce qu'au final, l'éditeur a un regard professionnel sur un texte, mais le lecteur de base, c'est lui le destinataire final de votre livre. Donc, écoutez-le aussi. Envoyez-lui des textes. Voilà.
Et soyez prêts à le faire aussi. C'est-à-dire que si vous êtes auteur, partez du principe que vous ne serez pas seul. Et qu'en échange du travail que les copains feront sur vos textes, vous ferez la même chose. Et vous vous rendrez service mutuellement en étant précis, en étant argumenté, en allant loin et en ne ménageant pas la personne parce qu'on n'en a pas nécessairement besoin. Je crois qu'on nous fait signe dans l'oreillette que le moment est terminé. Ben écoutez, en tout cas, merci de votre présence. Merci aux CoCyclix pour ce boulot-là. Merci aux auteurs professionnels d'avoir été des professionnels. Hein. Et on s'est bien amusés.
Et merci à vous aussi.
Merci.